On démarre le week-end au potager. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, pour nous parler de graines et de semences et puis également répondre à vos questions jardinage, nous recevons Stéphane Caravellas. Bonjour Stéphane.
Bonjour tout le monde.
On va faire comme ça. Bonjour Stéphane, on ne vous a pas entendu.
Bonjour.
J'espère que tout va bien, voilà, ça va bien se passer. Vous êtes responsable maraîcher à la micro-ferme biologique La Rochette à Charmoy. Soyez les bienvenus chez les jardinières.
Bon réveil à toutes et à tous, c'est parti pour le jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Ce mois de février prend des airs de printemps avec parfois des températures qui ont chatouillé les 10 degrés, qui les ont même dépassés. Stéphane, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose pour notre jardin ?
Bon, ça peut dépendre. C'est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent en vitesse, on serait tenté en fait de faire plein de choses au jardin. Mais il ne faut pas oublier que l'hiver n'est pas fini. Et puis qu'au mois de mai, on sait qu'il y a toujours les sarnéglaces qui peuvent arriver. Donc c'est vrai que c'est tentant. Moi-même, je l'ai fait. Mais voilà, il faut toujours prendre en compte ça. Donc après, pour le jardinier, bah, faut prendre ça avec des pincettes. Après, un mois de février assez chaud, comme ça, c'est pas non plus hors du commun. C'est le moment où bah, la nature se réveille, si on veut dire. Donc, je dirais pas que c'est forcément une mauvaise chose, non.
Merci.
Puis, je voulais encore vous demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là, il fait beau, on a envie d'aller toucher cette terre. On peut y aller déjà ou c'est quand même trop vite?
Ouais, non, alors je pense qu'en plus, il a pas plu depuis un bon moment, donc la terre, elle doit être assez réessuyée. Donc oui, ça peut être une bonne chose de la remuer, de la réveiller. Pourquoi pas de lui incorporer du compost, du fumier. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi-même et puis bah, j'adore faire ça, donc je l'ai fait bien volontiers, oui.
Merci beaucoup Stéphane, vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Il y a toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone 0900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute, soit par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Et puis il suffit d'envoyer ce message au 939 ou alors vous avez la troisième possibilité, celle du formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Dans la suite des jardinières, nous allons vous parler de graines et de semences. On va se retrouver juste après une pause musicale.
Les jardinières.
Le printemps n'est plus très loin et l'envie de se lancer dans les premiers semis est là. Pour vous aider et nous aider à choisir les bonnes graines et comprendre certains termes, nous allons écouter les bons conseils de Stéphane. Alors pour commencer Stéphane, dans la famille des graines, il existe ce qu'on peut appeler deux grandes familles. Alors il y a les graines reproductibles d'un côté et les graines hybrides type F1 de l'autre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les graines reproductibles ?
Oui, alors dans les graines reproductibles, on peut distinguer en tout cas deux types. Il y a les graines, les semences population qu'on appelle, ou les semences paysannes ou comme ça, et puis les semences de lignée pure. Donc les semences de population, c'est un peu ce que l'humanité a fait depuis le début de l'agriculture. Donc c'est des semences qu'on récolte de différentes plantes de la même espèce, dans différents endroits ou sur le même carré, mais on en prend différents plants. Et puis en fait, c'est un ensemble de semences qui a une très grande génétique. Donc elles s'adaptent en fait à beaucoup de milieux, à beaucoup de maladies, etc. Et puis les graines de lignée pure, c'est en fait une plante qu'on choisit pour ses caractéristiques spécifiques, dont on récupère les semences et puis qu'on multiplie. Et du coup, on garde la lignée de cette plante-là avec les caractéristiques que l'on souhaite. Donc les deux sont reproductibles, simplement que la deuxième, donc la lignée pure, a une génétique un petit peu moins grande que la première. Voilà.
Et puis les graines de type, donc les graines hybrides de type F1 ?
Ouais, alors les graines hybrides de type F1, donc F1, ça veut dire la première génération après le croisement hybride. Et donc le croisement hybride de deux plantes, c'est de deux lignées pures. Donc on prend en fait deux espèces, deux variétés, deux plantes de milieux différents avec des caractéristiques différentes qu'on veut garder, si on veut sélectionner pour créer une nouvelle, une descendance qui a les qualités des deux parents. simplement qu'on les appelle donc type F1, donc la première descendance de ce croisement. Il est très instable. Donc en fait, si on veut reproduire la descendance F2, eh ben, on ne va plus retrouver les mêmes caractéristiques que la F1. C'est-à-dire que de génération en génération, ça va perdre en fait les caractéristiques de début, et puis c'est ce qu'on appelle des graines non reproductibles, dans un sens où elles dégénèrent en fait.
Alors par exemple, si on prend des graines de tomates par exemple, qui sont des F1, on plante nos tomates, enfin on les sème, et si on veut récupérer les graines de ces tomates, on n'est pas sûr donc l'année d'après d'avoir exactement les mêmes, c'est ça ? J'ai bien compris ?
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas une question d'organismes génétiquement modifiés ou quoi que ce soit. C'est finalement les hybrides F1, c'est ce que l'humanité a fait depuis le début en sélectionnant un peu des caractéristiques qu'il veut. Donc on peut trouver des F1 bio, ça existe. Donc ça n'a rien à voir avec des semences comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que voilà, faut pas trop confondre les deux. Ça peut être très intéressant de cultiver des F1 si on est d'accord de pas faire nos propres semences quoi. Voilà.
Et puis, est-ce que le goût du légume, il change en fonction du choix de la graine ? Est-ce qu'on peut dire, ah oui, ça, c'est une hybride, ou ça, c'est une lignée pure, quand on goûte le légume ?
Ça peut, mais pas forcément, non. Après, on peut le voir, peut-être, pour certains jardiniers ou maraîchers qui ont l'habitude, en regardant les légumes, le produit lui-même, on peut se dire, oui, ça vient sûrement de semences hybrides F1, parce qu'elles sont souvent, c'est des légumes souvent beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux dans la couleur, dans l'aspect, pas forcément dans le goût, du coup, mais dans la forme, dans la vue, quoi, pour être vendu, quoi.
Et puis Stéphane, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une bonne graine ?
Une bonne graine ? Une bonne graine, pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne graine ou de mauvaise graine. Si on veut, la bonne graine, c'est celle qui germe et puis qui donne un plant. Après,
c'est déjà pas mal.
Une mauvaise graine, c'en est une qui donne rien. Mais après, il n'y a pas... Voilà.
Merci beaucoup Stéphane, on va se retrouver dans quelques instants pour parler toujours de graines et de semences. Vous allez entre autres nous expliquer comment on peut faire soi-même ces semences et puis qu'est-ce qu'on trouve dans une grainothèque.
7h, 8h, les jardinières.
Stéphane Cavravelas, pardon, vous êtes notre invité ce matin et nous parlons de semences et de graines. On peut se procurer des graines dans des jardineries ou sur Internet, mais on peut aussi les produire soi-même. Alors Stéphane, dites-nous, comment est-ce qu'on peut produire ses propres semences ?
Alors, de manière générale, c'est assez simple en fait, parce que la nature le fait toute seule. Il y a juste simplement un peu des notions de botanique à connaître. Parce que pas tous les légumes ne donnent des semences la première année. Donc c'est vrai qu'il y a des légumes qu'il faut garder pendant l'hiver, sous forme de racines par exemple, les carottes, les betteraves par exemple, et puis replanter au printemps pour qu'elle finisse son cycle et qu'elle monte en fleurs et qu'elle fasse des graines la deuxième année. Donc la plupart des légumes sont annuels, certains sont bisannuels, et puis très rares sont ceux qui sont vivaces. Donc en général, faire ces graines de légumes, c'est assez facile parce que du coup, on suffit de les récolter la même année. Mais voilà, il y en a certaines, les familles des carottes, donc les apiacées, et puis la famille des betteraves, donc les chénopodiacées, sont bisannuelles. Voilà.
Mais on peut le faire avec toutes les espèces de légumes ?
Oui, tout à fait. En tout cas, les légumes cultivés, on peut... Oui, tout à fait, oui.
On peut aussi se procurer ces graines, si on n'a pas envie de les faire soi-même, dans des grainothèques. Alors, c'est un peu comme une bibliothèque. Mais pour les graines, vous nous expliquez comment ça marche ?
Oui, alors, pour avoir participé à une grainothèque sur Neuchâtel, à la bibliothèque de Neuchâtel, universitaire de Neuchâtel, ils ont mis en place une grainothèque. Donc, en fait, c'est très simple. Chaque jardinier qui veut... profiter de cette grainothèque, en principe, doit lui-même ramener des semences de chez lui en notant sur le sachet d'où ça vient, son lieu, l'espèce, et puis peut-être une petite caractéristique. Et il amène ses semences à la grainothèque, et puis il peut repartir avec d'autres semences que d'autres jardiniers auront mis. Donc c'est vraiment un espèce d'échange comme ça, de troc de semences. Et puis ça peut être intéressant, en tout cas pour les jardiniers amateurs, d'échanger des semences gratuitement, quoi.
Puis toutes ces graines, comment est-ce qu'on peut faire pour les conserver au mieux d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y a une date d'expiration?
Alors c'est ça, ouais. Donc de manière générale pour toutes les semences, il faudrait les garder dans un milieu donc à température ambiante, éviter le trop chaud, dans un récipient, un couvert, enfin un pot ou un sachet étanche, et puis bien fermé. Et puis bah, la durée de conservation des semences, c'est en moyenne 2-3 ans. À partir de 2-3 ans, la puissance de germination baisse petit à petit, mais certaines semences, on peut les garder vraiment plusieurs années, 5 ans, parfois même 10 ans. Voilà. C'est vrai que ça dépend en fait, aussi de la manière dont on les conserve, donc si elles sont bien conservées au sec, voilà, dans un récipient étanche, etc. Quoi.
Et est-ce qu'on peut voir justement si ces graines ont peu de chances de pousser juste en les regardant? Par exemple, vous avez une graine de haricot dans la main, puis vous dites non, celui-là, je ne vais pas le planter, il ne va rien me donner. On peut ou pas?
C'est possible, oui. Après, c'est vrai que c'est avec l'habitude qu'on peut les voir. Surtout au toucher, je dirais, parce qu'il y a certaines graines qui sont... On sent tout de suite si elles sont pleines ou pas, quoi. Si c'est juste une cosse vide. Par exemple, les graines de courge, ça c'est assez flagrant. Certaines graines de courge sont toutes... il y a juste la couverture et rien dedans, en fait. Ça, c'est facile à voir. Après, juste en regardant, bah, ça c'est en ayant l'habitude, oui, ça peut être possible, oui.
Et puis quand on se retrouve devant les rayons de graines, le choix il peut être vaste, voire même très vaste. Vous nous conseillez de prendre tout ce qui nous fait plaisir et tenter, ou alors ne pas abuser?
Alors un conseil, ne pas abuser. Pourquoi? Parce que on est vite tenté, c'est vrai, à cultiver tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, parce qu'en plus les couleurs sont souvent très attrayantes. Après c'est pas forcément, vous allez sûrement vous épuiser, quoi. À vouloir tout faire. Alors voilà, je vous conseille d'en sélectionner, en tout cas d'année en année, d'en sélectionner par exemple une ou deux variétés de chaque espèce de légumes. Essayez une année, puis l'année prochaine, me dire ah bah ouais, il y en a une des deux que j'aime pas, on en prend une nouvelle par exemple. Plutôt que de feuilleter tout le catalogue et puis de tout prendre ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est un peu un conseil que je vous donne. Après, bien sûr que. Adapter aussi les légumes que vous aimez à vous, quoi. Si vous aimez pas le topinambour ou le panais, par exemple,
n'en plantez pas.
Bah, voilà, tout bêtement, quoi.
Sauf si c'est pour donner aux voisins.
Ouais, peut-être, ouais, ou cochons, je sais pas.
Merci beaucoup, Stéphane. On a encore une ou deux petites questions à vous poser sur ces graines. On y reviendra après la pause musicale, météo et inforoute. Les jardinières reviennent dans quelques minutes.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoille. Et elle se trouve dans le Jura.
Et vous avez jusqu'à 8 heures pour poser vos questions jardinage à notre spécialiste. Et vous avez toujours trois possibilités pour le faire, soit par téléphone et la chance de parler en direct avec Stéphane. Il vous suffit de composer le 0901 70 20 20. Ou alors, vous remplissez le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et puis la troisième possibilité, c'est par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Puis vous envoyez tout ça au 939.
Nous avons parlé de graines et de semences en première partie d'émission des jardinières. Alors, les graines s'achètent le plus souvent en sachet. Puis sur ce sachet, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Stéphane, quelles sont les informations finalement importantes sur ces sachets?
Ouais, alors c'est vrai qu'on peut trouver toutes sortes de choses sur les sachets. Ça dépend en plus des semenciers chez qui vous les achetez, parce qu'ils donnent des informations parfois différentes. Donc ce qu'il faut retenir, je dirais, le plus important, c'est un peu la période de semis. Ensuite, ce serait peut-être les caractéristiques du légume, donc un peu le goût éventuellement s'il le donne, la durée de conservation du légume à la cave, par exemple. Etc. Peut-être le besoin aussi en fumure du légume. Après, il y a d'autres informations comme la distance de semis entre les rangs, entre chaque plant, etc. Ça peut être intéressant. Après, ça dépend. Faut aussi prendre ça un peu avec des pincettes parce que les distances de plantation et de semis sont directement liées aux outils que vous utilisez pour cultiver vos légumes. Parce que si vous utilisez des outils un peu, disons, classiques, vous aurez besoin d'interrants assez grands pour pouvoir passer, par exemple, le sarcloir pour désherber, etc. Mais si vous partez sur une optique un peu plus de moins désherber, donc planter beaucoup plus serré pour que ce soit les légumes eux-mêmes qui couvrent votre sol et puis que les herbes libres ne poussent plus, ces recommandations de distance ne sont plus valables, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut adapter en fait ça chez vous, à votre contexte aussi. Je trouve que c'est très intéressant de lire quand même
de
ces
lire
informations-là,
une fois.
Parce que ouais, je pense que c'est bien, des fois on trouve des choses très intéressantes.
Oui, parce qu'il y a des recommandations, mais elles ne sont peut-être pas valables pour tout le monde pareil, que vous habitiez par exemple à la Chaux-de-Fonds ou au bord du lac de Bienne, il faut se méfier quand même.
Oui, c'est clair, exactement. Ouais. C'est vrai qu'en plus, beaucoup de semenciers, par exemple français, donc la France est très grande, hein, du nord au sud, il y a une grande différence au niveau du climat et tout. Donc nous, la Suisse, on est vraiment aussi un peu à part, quoi. Et puis, donc c'est vrai que si on achète des semences qui viennent de Provence ou je ne sais où, ben, c'est clair que ce ne sera pas les mêmes besoins chez nous à la Chaux-de-Fonds, quoi, par exemple.
Merci beaucoup Stéphane. La suite, c'est Temps Musique et dans quelques minutes, on répondra à vos questions, chers auditeurs.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Ça veut dire qu'il vous reste un bon gros quart d'heure pour poser vos questions.
Et vous pouvez le faire soit par téléphone et la chance de parler en direct à notre spécialiste, ça se passe au 0900 170 20 20, ou alors en remplissant le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, vous aurez la chance de joindre une photo, ou alors par SMS vous tapez jardin un espace et votre question et puis vous nous envoyez ce message au 939.
Et ce matin c'est Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans une micro-ferme biologique à Charmoix qui répond à vos questions. Stéphane, nous avons une question pour vous de Samuel de Boudry qui nous dit « Bonjour, nous avons des engrais verts dans notre potager. Est-ce le bon moment pour les faucher ?»
Oui, alors tu peux les faucher, Samuel, s'ils n'ont pas déjà cramé avec les gels. Mais s'ils sont encore debout, ouais, tu peux les faucher, les disposer au sol. Et puis après, ensuite, c'est à toi de voir. Et si tu veux, par exemple, poser une bâche par-dessus pour que tout ça soit bien incorporé, mélangé par les vers de terre, naturellement, ou par exemple, couvrir avec de la paille en plus, pour que quand tu commenceras tes semis, ton potager, peut-être au mois de mars, avril, je ne sais pas, peut-être fin mars, que la terre, que les engrais verts auront le temps d'avoir un peu pu être digérés, quoi, ouais.
Donc ça suffit, ouais. Cette période entre maintenant, on est déjà le 18 février, et mi-mars, fin mars pour les semis, ils ont le temps de digérer tout ça, les vers de terre ?
Ouais, alors ça dépend de l'engrais vert, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais si c'est un engrais bien vert justement, avec beaucoup de feuilles, machin, en un mois, ça peut être très vite digéré, ouais.
Merci beaucoup Stéphane. Et puis on a reçu une deuxième question de Sylvie de Glérès. Bonjour les jardinières, cette année nous aimerions de l'ail dans notre potager. Quand et comment le planter ? Bon week-end.
Ouais, alors Sylvie, donc pour l'ail, donc il y a deux types d'ail si on veut. Il y a l'ail d'automne et l'ail de printemps. Donc l'ail d'automne, on le plante, certains le plantent déjà au mois d'août. Moi je préfère le planter au mois d'octobre. Donc voilà, c'est un ail qu'on plante à l'automne. Donc, pour celui-là, c'est trop tard. Après, il y a de l'ail de printemps, donc tu peux le planter maintenant, quoi, jusqu'à fin mars, je dirais. C'est un peu le moment de le faire. Et puis, les deux fonctionnent. Je trouve que l'ail d'automne a de meilleurs rendements, quand même, et puis est plus résistant, parce que je trouve que, par exemple, là, si on l'avait planté au mois d'octobre, là, au mois de février, il aurait déjà les feuilles, enfin, voilà, il serait déjà en train de s'implanter, de grossir gentiment. Alors que l'ail de printemps, voilà, ce sera même pas encore... sorti, quoi.
Et puis donc, l'ail, c'est une semence, une graine, ou alors on prend une gousse qu'on met en terre ?
Ouais, c'est
une
ça.
Tête. On prend plutôt, la tête ou juste une gousse ?
Non, une gousse. La tête, c'est l'ensemble des gousses agglomérées, là, voilà. Et ouais, donc plutôt une gousse, quoi. Mais après, ça s'achète chez les semenciers, des gousses d'ail, quoi.
Et donc chaque gousse d'ail refera une tête. C'est juste.
Exactement.
Ah, c'est fou. Voilà, je viens d'apprendre quelque chose.
Après, l'ail fait aussi des graines. Hein. c'est des sortes de pseudo-graines, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vraiment appeler ça, mais ça fait des semences qui ressemblent à des mini-gousses, et puis qui se multiplient comme ça. L'ail sauvage, les poireaux sauvages, tout ça, enfin pas les poireaux, mais l'ail plutôt, l'ail sauvage, se multiplient comme ça, quoi, aussi.
Et puis voilà, encore
y a les deux moyens.
Si on reste dans ces condiments comme l'ail, l'oignon et l'échalote, ça c'est pareil?
Oui, pour la période de plantation, tu veux dire?
Oui.
Oui, alors oui, c'est pareil. J'aime bien planter les oignons à l'automne aussi, pour la même raison, pour que voilà, ils ont déjà une longueur d'avance au début de la saison. Mais après, c'est tout à fait faisable de le mettre au printemps. Il y aura juste un peu des rendements moins élevés, je trouve. Et puis les échalotes, par contre, plutôt au printemps. Ouais.
Merci beaucoup Stéphane. On va repartir en musique pour quelques minutes. Et puis on se retrouvera après pour la suite de vos questions.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Il vous reste quelques minutes pour poser vos questions. Vous pouvez par exemple rapidement attraper votre téléphone et nous appeler au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, votre petit nom. Vous nous l'envoyez au 939 ou alors direction notre site. Sous l'onglet émission questions aux jardinières, vous posez vos questions. Vous pouvez même joindre une photo pour aider Stéphane à répondre à votre question. Et puis Brian, on a encore quelques questions à poser à Stéphane d'ailleurs.
Et oui, voilà la première. Nous aimerions planter des crocus. Peut-on encore le faire maintenant pour avoir des fleurs encore cette année ou c'est trop tard?
Non, c'est trop tard. Je dirais que le dernier moment pour faire les crocus, c'est Noël. Donc voilà. Donc c'est trop tard, désolé.
Alors on va pas le planter maintenant, donc ça se présente sous forme d'un oignon, si je me trompe pas, le crocus.
Ouais.
Est-ce qu'on peut le conserver quand même en terre, dans sa cave, ou on va le mettre dans un sachet au frigo?
Enfin, si vous voulez, vous pouvez quand même les planter maintenant, mais vous aurez pas forcément de fleurs cette année. Voilà. Donc vous pouvez le planter maintenant, il va juste être complètement décalé, et puis il va voilà, coûte que coûte à essayer de faire son cycle, mais au moins il sera implanté pour printemps prochain, quoi. Donc pas 2023, mais 2024.
Donc on va un peu patienter pour avoir des beaux crocus. Voilà. Une dernière question, Stéphane, on aimerait se lancer dans la préparation du potager. Nous avons un terrain herbeux. Est-ce qu'on peut mettre une bâche dessus pour ensuite simplement retirer l'herbe?
Oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a fait, nous, sur notre terrain maraîcher. Après, il faut un certain temps aussi pour que l'herbe se dégrade. Donc, je dirais que si vous mettez une bâche maintenant, c'est vrai que vous n'aurez pas forcément un bon résultat avant fin avril, mois de mai, quoi. Voilà, ça prend quand même un certain temps. C'est beaucoup plus efficace durant la saison que pendant qu'il y a pas mal de soleil, parce que du coup, la bâche va faire chauffer aussi l'herbe et donc ça va se dégrader beaucoup plus vite. Que, en plein hiver, alors qu'il fait encore froid. Quoi.
Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On a reçu un appel de Bertrand. Bertrand.
Ah, on ne vous entend plus,
ah, vous
Brian.
M'entendez.
C'est mieux de parler dans le micro.
Parfait. On a reçu donc un appel de Bertrand qui est en ligne avec nous pour poser une question. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour. Alors, ma question est simple. J'aimerais éradiquer les muscaries.
Oui. Et d'accord, alors ben oui.
C'est très, très pénible. C'est très pénible parce que bon, la solution de les arracher, hein, c'est de la folie, ça se ressème, c'est des petits oignons qui se ressèment, quelque chose de pas possible.
Oui.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen?
Alors, j'ai jamais forcément arraché de muscarine, mais je vois tout à fait à quel point c'est embêtant. Peut-être qu'une chose, parce que c'est vrai que si vous les arrachez, vous retournez la terre, tout ça, il y en a toujours un ou deux qui vont rester. Peut-être que vous pourriez, s'il y a un endroit dans votre potager qui pourrait les accueillir et qui peut pas, enfin, où ils vont pas vous gêner, bah, enlever la meute le plus gros possible et puis remettez-la à cet endroit-là, par exemple. Comme ça, vous ferez de la place. Et puis, voilà, ça c'est peut-être un peu mon conseil. Ou bien, vous pouvez les bâcher. Ça, c'est aussi un truc, c'est efficace contre toute plante, hein. Les couvrir avec une bâche opaque et puis laisser le temps faire, quoi. Puis au bout d'un moment, ils vont crever.
Mais les, voilà, les oignons, ils vont crever ou bien ils vont repartir après?
Non, ils vont crever, mais après, il faudra laisser votre bâche un certain temps. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais forcément éradiqué le muscari, mais ouais, je pense que la bâche, en tout cas, ça peut être un bon système, oui.
Ouais, mais comme j'en suis envahi, c'est pratiquement impossible.
D'accord.
Bon, c'est une plante envahissante, c'est terrible.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est assez beau, mais...
Ouais, j'allais dire, elles sont jolies, ces petites plantes, envahissantes, mais jolies.
Ouais, mais trop envahissantes. Ouais.
Bah Bertrand, on souhaite que les bâches fassent leur effet, que tout, comme le disait bien Stéphane, crève, et puis que vous puissiez retrouver votre herbe. On nous dit aussi qu'elle supporte les grands froids, jusqu'à moins 25 degrés. Bon, bah voilà.
Ouais, bien sûr.
Elles ne sont pas gênées. Merci Bertrand pour votre question. Bon week-end.
Merci à vous. Bon week-end.
Bon week-end, Bertrand.
Et puis Stéphane, vous nous avez parlé graines et semences ce matin en début d'émission chez les jardinières. Ce sujet sera retrouvé en cours de matinée en podcast sur nos sites internet.
Merci Stéphane, on rappelle que vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. On vous souhaite un bon week-end et à très bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup, bon week-end.
Merci beaucoup Stéphane. La semaine prochaine, dès 7h, nous parlerons de viticulture durant une heure. Annie Rossi est œnologue et responsable des vins Grillette à Crécy dans le canton de Neuchâtel. Et elle sera notre invitée, elle nous parlera de raisins, de vignes et puis un petit peu de vin aussi. Hein,
on se réjouit.
On se réjouit. Passez un bon week-end et à samedi prochain, dès 7h.
7h, 8h, les jardinières.